Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Regard assassin, mâchoire serrée. Donald Trump est devenu le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale. Hier, il a fait son entrée au tribunal de New York, prêt à en découdre.
This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. And again, it's an assault on America.
Face à Donald Trump, le procureur démocrate de Manhattan, Alvin Bragg, accuse l'ancien président d'avoir enfreint la loi électorale. En 2016, en pleine campagne, le candidat républicain aurait trafiqué ses comptes pour dissimuler le versement de 130 000 dollars à l'ex-star du porno Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation. À Manhattan, devant le tribunal, les anti-Trump réclament justice. D'autant que trois autres procédures pénales attendent Donald Trump pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden, pour ingérence électorale en Géorgie et recel de documents confidentiels.
Notre super président de la honte doit être jugé pour tous les crimes qu'il a commis.
Face aux accusations, les pro-Trump défendent coûte que coûte leur champion.
Il est important d'être ici pour soutenir le président Trump, le plus grand président de tous les temps, alors qu'il fait l'objet d'une nouvelle chasse aux sorcières.
Ils essaient d'empêcher un adversaire politique de gagner.
Dans les sondages, l'écart se resserre entre Joe Biden et Donald Trump. Mais à 7 mois de l'élection présidentielle, le républicain reste combatif, à l'image de sa surprenante collection de baskets, lancée en février et baptisée « Never Surrender, n'abandonne jamais ». Alors le prévenu Donald Trump peut-il se sortir d'affaire? Parviendra-t-il à éviter les condamnations et la prison? La présidentielle américaine du 5 novembre 2024 va-t-elle se jouer au tribunal?
Eh bien, nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Gérald Olivier, bonsoir, bienvenue
bonsoir.
À vous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste franco-américain. Vous avez publié « Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond » aux éditions Confident. Selon vous, Gérald Olivier, ce procès, dites-vous, est un procès partisan. Les démocrates veulent empêcher Donald Trump de se présenter par tous les moyens. À vos côtés, Anne Desine, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, vous êtes juriste et américaniste. Professeur émérite de droit de civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre, et vous avez publié « Les États-Unis et la démocratie » aux éditions de l'Harmattan. Selon vous, même si Trump était reconnu coupable, cela ne ferait pas changer d'avis ses partisans, et vous, vous considérez qu'il faut espérer, dites-vous, qu'il y ait suffisamment de gens qui prennent conscience du danger de sa réélection. Et puis à vos côtés, Pierre Bourgois, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le néoconservatisme américain » paru au PUF. Et selon vous, la présidentielle ne va pas se jouer au tribunal, mais c'est la manière dont Joe Biden et Donald Trump vont utiliser ces procès successifs d'ailleurs à venir, qui va être déterminante. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Valérie, vous avez un mot qui est un mot du jour.
Et oui, c'est le mot du jour, c'est gag order. Et je peux vous dire que pour Donald Trump, c'est loin d'être un gag, c'est une injonction au silence médiatique. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, mais figurez-vous que la justice américaine peut imposer aux prévenus de ne pas s'exprimer sur son procès. Et comme l'ancien président n'a pas vraiment respecté cette injonction, eh bien, le bureau du procureur de Manhattan a déjà demandé au juge d'infliger une amende de 3000 dollars à Donald Trump pour ses multiples commentaires depuis le début de son procès. Mais je me tourne vers vous, Gérald Olivier. Imposer le silence à Donald Trump, c'est mission impossible.
Oui, oui, c'est amusant. De toute façon, à chaque procès, il y a un gag order. Je suis désolé de mettre de l'anglais dans le langage. Mais lorsqu'il avait été poursuivi par Laetitia James et l'État de New York dans le cadre de son organisation, il avait déjà été interdit de parole. Donc là, il est à nouveau interdit de parole. Il est interdit de parole parce que quand il s'exprime, on estime qu'il a un langage qui est trop brutal par rapport à la Cour ou aux représentants de la Cour, aux représentants de la justice. Donc on lui impose de se taire. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que c'est vrai que l'un des objectifs de ces procès, c'est de l'empêcher de faire campagne. Et donc, lui, il n'a d'autre choix que lorsqu'il passe devant les caméras à la sortie ou à l'entrée du tribunal, de faire campagne, puisqu'il ne peut pas être sur le terrain à chercher à convaincre les électeurs. Il le fait devant les caméras et on essaye de l'en empêcher.
Désine ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, nos amis québécois parlent d'ordre de baillon. C'est pas mal. Mais alors, en fait, c'est extrêmement réglementé parce qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement qui protège la liberté d'expression. Et donc, à chaque fois que le juge émet une de ses ordonnances, il y a un équilibre très important que les juges trouvent entre ce que peut dire Trump, parce qu'il n'est pas question de le bâillonner, malgré ce qu'il dit. Et donc, quand on entend ce qu'il raconte avant l'audience et après l'audience, il répète que c'est une chasse aux sorcières, que c'est partisan, que c'est pour l'empêcher de faire campagne. La seule chose que dit l'ordre de Bayon, c'est qu'il faut qu'il arrête de menacer et d'intimider le juge, le procureur, la famille du juge.
Il peut parler de l'affaire, mais pas des,
voilà,
pas des juges.
Il peut critiquer Biden, d'accord. Il peut dire que Biden est nul, qu'il est endormi, qu'il a ruiné l'Amérique.
Ça n'empêche pas de faire, d'ailleurs.
Tout à fait, ce qu'il fait, beaucoup, beaucoup. Non. Mais en revanche, il faut qu'il arrête de menacer, parce qu'on sait que c'est dangereux. Il y a des gens qui ont eu des attaques contre leur vie.
Très concrètement, Pierre Bourgois, dans ce procès donc, qui a commencé hier, qui s'est ouvert hier à New York, qu'est-ce qu'on lui reproche quelles sont les accusations qui pèsent sur Donald Trump et qu'est-ce qu'il risque ?
Alors, bon, concrètement, donc, c'est ce fameux paiement donc, à l'actrice pornographique Stormy Daniels qui a été fait par l'intermédiaire de son ancien avocat, qui maintenant est devenu un ennemi juré, donc Michael Cohen. Mm-hmm. Donc un paiement qui aurait été... Alors, ce n'est pas tant le paiement qu'on reproche, c'est la manière dont il aurait falsifié ses comptes, en fait, de la Trump Organization. Donc, en fait, voilà, on reproche à Donald Trump de vouloir faire taire finalement, cette femme, mais surtout, en fait, de devoir dissimuler aux électeurs les raisons. Voilà, les raisons.
Parce que rappelons que ces faits sont survenus...
En 2016. Oui, vous parliez de...
Vous parliez de la liaison. Moi, je parlais plutôt des faits qui sont reprochés, qui ne sont pas la liaison, mais les fameux les fonds versés, donc dans la dernière ligne droite de la présidentielle contre Hillary Clinton.
Je vais ajouter autre chose. En fait, ce n'est pas effectivement le fait que cet argent soit versé, ni même d'ailleurs qu'il y ait falsification. Le problème, c'est que ça a été remboursé par l'organisation Trump. Et en fait, c'est considéré comme une donation électorale, une contribution, parce que l'idée, c'était de dissimuler la vérité aux électeurs. Et d'ailleurs, la gauche dit que c'est là qu'il y a une interférence avec l'élection, en cachant la vérité. Or, dans le droit du financement des élections aux États-Unis, les entreprises n'ont pas le droit de donner d'argent. Et petit 2, ceux qui ont le droit de verser de l'argent doivent divulguer. Et là, tout a été caché. Et vous savez que les Américains n'aiment pas quand on ment et qu'on ment.
Sur ce point-là, il ne peut pas gagner, Trump. Parce que quoi qu'il ait fait, on peut le poursuivre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une affaire privée. On a le droit d'acheter le silence de quelqu'un, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de crime là. Par contre, dans le paiement, il n'a pas le droit de régler ses affaires privées avec ses paiements de campagne. Donc si sa campagne paye, on le poursuit. Oui. D'accord ? Et si... S'il ne paye pas, on le poursuit aussi. Donc il ne peut pas gagner. Quelle que soit la situation, il est dans un catch-22 à l'américaine où quoi qu'il ait fait, on avait une raison de le poursuivre.
Et Pierre Bourgois, la question de l'adultère, quand même, est-ce qu'aux États-Unis, ça reste politiquement un tabou et quelque chose qui peut être imputé à Trump ? Est-ce qu'il peut le payer, ça, ou pas ?
C'est pour ça que c'est intéressant, parce que le lapsus que j'ai fait sur la date, en fait, je parlais 2006, parce qu'en fait, pour moi, c'est plus ça qui se joue. Parce qu'en fait, finalement, des 4 affaires au pénal qui concernent Donald Trump, c'est pas la plus importante. C'est pas la plus importante sur le plan juridique, mais peut-être que sur le plan symbolique, c'est celle qui va résonner le plus auprès des Américains, parce que vous l'avez dit, à l'époque, donc, il est marié déjà avec Melania Trump, déjà. Et donc, finalement, c'est, malgré tout, les éléments d'adultère, Ça va ressortir pendant le procès.
Ça pèse plus aux États-Unis, par exemple, que dans une campagne électorale en France.
En tout cas, auprès du grand public américain, c'est ce qui va alimenter la discussion.
Alors justement, certains craignent un procès politique, mais vous allez l'entendre pour l'association CROU, une organisation citoyenne qui défend l'éthique. Aucun risque de procès partisan, écoutez.
Donald Trump mérite un procès équitable et rapide et nous pensons qu'il va l'obtenir. Au fur et à mesure que le procès avance et que les preuves des deux parties sont présentées aux jurés qui décideront de son sort, nous savons que la justice sera rendue sans crainte ni faveur. Car personne n'est au-dessus des lois dans ce pays. Et cela inclut le président des États-Unis.
Est-ce qu'il a raison, Gérald Olivier ? Est-ce qu'il a raison ou vous craignez plutôt un procès politique ?
Non, mais c'est déjà un procès politique. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu et compléter ce qui a été dit avant, l'effet du paiement était prescrit. Et le procureur qui était là avant, M. Bragg, avait décidé de ne pas poursuivre parce qu'il y avait prescription. Et la seule raison pour laquelle aujourd'hui il y a procès, c'est parce que M. Bragg a ressuscité le fait en rattachant le paiement justement à la
réalisation. Vous évoquez le procureur,
le procureur actuel.
Pourquoi est-ce que c'est déjà un procès politique, dites-vous ? Pourquoi vous l'affirmez comme ça ?
Je l'affirme comme ça parce que justement, les faits, au départ, il y a un délit. Il y a un délit de campagne. Un délit ne nécessite pas un procès et n'est jamais sanctionné par une peine de prison. Là, le délit n'est plus un délit, c'est un crime. Parce qu'un crime est sanctionnable d'une peine de prison. Et au passage, le crime a été divisé en 34 chefs d'accusation. Donc au total, Monsieur Trump risque 136 ans de prison. Et personne avant lui n'a été poursuivi pour les faits qu'on lui reproche. S'il ne s'appelait pas Trump, s'il n'était pas le candidat républicain à la présidence, ce procès n'aurait pas lieu. Ensuite, vous parlez, est-ce que le procès peut être impartial ? Non. Je rappelle qu'on est à New York. À New York, il y a déjà eu deux procès contre Donald Trump. Le premier est mené par une jeune femme qui s'appelle, enfin, qui est moins jeune que cela, mais E. Jean Carroll, qui l'a également poursuivi pour viol, etc. Et le jury lui a accordé 83 millions de dollars.
Pour diffamation.
83 millions de dollars. Et à côté de cela, il y a eu la poursuite contre l'organisation Trump, pour laquelle il a été condamné à 350 millions de dollars, soit 450 millions après intérêt.
Anne Desine, procès politique. Rappelons qu'aux États-Unis, les procureurs sont élus. Voilà. Ce qui peut évidemment nourrir cette accusation. Et le procureur de New York en question est un procureur démocrate.
Oui, il a été élu en tant que démocrate. Et c'est vrai qu'en disant qu'il poursuivrait Trump, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est que ce monsieur Trump, depuis 40 ans, viole la loi contre la discrimination dans les logements, tout. Et il s'en est tiré, il a joui d'une impunité totale en usant de toutes les manœuvres juridiques, dilatoires et compagnie. Et ce monsieur, ce procureur a dit « personne n'est au-dessus de la loi ». Et ça, c'est quelque chose de très important dans le droit américain. « Nobody is above the law ». Le juge Breyer, celui qui a quitté la Cour suprême récemment, disait toujours « c'est le principe de la primauté du droit ». Et donc, il considère que si c'était quelqu'un de lambda, on l'aurait poursuivi. Il n'y a pas de raison qu'on lui fasse de cadeaux.
Il y a quand même un piège rhétorique, parce qu'en fait, parler de procès politique, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. Ça veut dire que c'est simplement une campagne. Et là, c'est donner raison à Donald Trump. Pour autant, on ne peut non plus mettre sous silence le fait qu'on est à quelques mois d'élection, qu'il y a quand même des... C'est vrai que le...
Et donc un télescopage aussi des dates entre évidemment, la politique et la justice.
Le calendrier américain est tellement court, finalement, en 4 ans, c'est tellement court sans compter les midterms. Donc en fait, il y a un piège, et je trouve qu'il faut éviter de tomber dans le piège rhétorique en disant justement que c'est un procès politique. Pour autant, on est obligé quand même d'évoquer qu'il y a une dimension politique, malgré tout.
Si je peux me permettre, si l'État de New York, si le paquet de New York avait respecté la règle du temps, le procès n'aurait pas eu lieu. Parce qu'on a fait monter le dossier en haut pour qu'il ait lieu avant l'élection. S'il était passé à son tour...
Ce sont les équipes de Trump qui ont...
Non, pas du tout, ce sont les équipes de M. Bragg. C'est le procureur de New York qui a fait avancer la date du procès pour qu'il ait lieu avant l'élection et pendant la campagne. Je rappelle qu'à New York, notamment à Manhattan, vous avez 3 ans de retard sur les procès. 3 ans de retard qui se sont accumulés en partie à cause du Covid. Et qu'en priori... En priorité, on juge les crimes violents et les juges dont les suspects sont déjà en prison. Là, c'est un crime non violent et le suspect n'est pas en prison. On a quand même fait monter le dossier au-dessus pour que le procès ait lieu avant l'élection. C'est politique et c'est gros comme le nez au milieu de la figure.
Le calendrier,
parlons du calendrier de la Cour suprême, par exemple. La Cour suprême qui va entendre la semaine prochaine sur la question de l'immunité. Elle aurait pu prendre l'affaire tout de suite en procédure d'urgence. Non, elle a joué, et ça, on ne peut que la soupçonner quelque part. Je ne dis pas qu'elle va statuer pour Trump, mais elle a donné du temps à Trump, ce qui retarde d'autant le procès à Washington, D.C., sur l'assaut contre le Capitole. Mais là, juste sur la justice.
La Cour suprême, qui, rappelons-le, est dominée par une majorité de juges nommés, républicains.
De 6, oui.
Donc là, vous dites que la Cour suprême, elle prend des décisions politiques.
Ah oui, complètement. La Cour actuelle est devenue partisane, elle est toujours politique. Alors juste pour le
Tout est politique, en fait. Le procès de New York est politique, et la Cour suprême est politique.
Ce que je veux dire sur le procès de New York est assez rassurant, c'est que quand même, bon, on peut dire tout un tas de choses, le procureur est démocrate, on ne sait pas pour le juge, même si sa fille, elle, collecte des fonds pour les démocrates, mais quand même, toutes les règles qui garantissent un procès équitable pour le mise en examen, en l'occurrence Trump, sont respectées. Il y a des dizaines de motions qui sont mises en avant par les avocats de Trump et ils statuent, par exemple. Là, on parlait de Stormy Daniels. Juste au même moment, il y a eu une jeune femme, mannequin pour Playboy, etc., qui a aussi été achetée, 150 000 dollars, pour qu'elle garde le silence. Et il y a eu des tas de motions, et le juge a dit, bon, ok, je vais autoriser cette dame a témoigné. En revanche, j'interdis que l'on diffuse la cassette Hollywood Tape, vous savez, où Trump disait « je fais n'importe quoi avec les femmes », enfin des choses épouvantables. Et donc, il y a vraiment... il essaie. Et alors, pour les jurés, c'est intéressant parce que Hier, sur les 100 jurés, il y en a 50 qui ont dit « Ah ben moi, je ne peux pas être impartial ». Et dans le Washington Post hier, il y avait des interviews de New-Yorkais, de bons New-Yorkais, bien démocrates, qui n'ont pas voté Trump, et qui disent « Ah mais quand même, c'est l'ancien président. Ah, puis c'est quelqu'un de puissant. » Donc finalement, ça ne peut, le jury ne sera pas aussi déséquilibré.
Justement, Indésine, vous évoquez le fait que ce procès se déroule à New York, fief démocrate. On le sait, Donald Trump a déjà eu plusieurs vies, et avant de se lancer en politique, Donald Trump a bien entendu fait fortune dans les affaires, et précisément au cœur de cette ville, New York, où il est jugé aujourd'hui. Un businessman auquel on promettait alors un brillant avenir, c'était il y a 33 ans, c'est notre archive du jour.
Le portrait maintenant, le portrait d'un des hommes qui comptera le plus probablement dans les années qui viennent. Comme tous les naïfs, c'est-à-dire comme moi, vous êtes persuadé que New York appartient aux New-Yorkais. Eh bien, c'est une grave erreur, car le patron de la ville, d'une certaine manière, s'appelle Donald Trump. C'est un milliardaire mythique à l'américaine d'une quarantaine d'années, dont la fortune s'est faite essentiellement au départ dans l'immobilier. Mais depuis, ce grand blond a diversifié ses activités en s'offrant, par exemple, vous le connaissez, le champion du monde de boxe Mike Tyson.
À New York, pas de réussite qui ne s'affiche à la verticale. À chaque milliard sa tour, c'est parce qu'il en rêvait tout petit devant son jeu de cube que Donald Trump règne aujourd'hui sur un empire immobilier qui pèse entre 1 et 3 milliards de dollars. La jet set l'adore, les politiques le courtisent, les banquiers lui font des prêts les yeux fermés. Autoportrait.
Je travaille beaucoup, je suppose que j'ai de bonnes idées, en tout cas je l'espère. Il semble que je sois capable de les réaliser, c'est très amusant.
Alors Pierre Bourgois, on vient de le voir, c'était le roi de New York, aujourd'hui jugé dans un fief démocrate, on l'a dit, dans un État qui a voté à plus de 60% pour Biden en 2020. Le procureur Alvin Bragg, on l'a dit, est un démocrate assumé. On est en plein jugement partiel ?
Il y a une dimension politique évidente parce que de toute façon, on parle d'une personnalité politique et que aux États-Unis, d'ailleurs partout, tout est politique. Tout à l'heure, on parlait de la Cour suprême, mais le Conseil constitutionnel français aussi, certains des membres sont nommés par des politiques. D'ailleurs, les membres sont nommés par des politiques. Donc, évidemment, il y a toujours une dimension politique. Ça ne veut pas dire que pour autant, le procès en tant que tel est politique. En tout cas, là, il y a un aspect symbolique. En effet, Donald Trump sait très bien qu'il n'est pas dans un terrain conquis, ça c'est sûr. Cela dit, pour l'instant, il n'y a pas eu de grandes manifestations autour du tribunal, en fait. Donc, est-ce que ça va jouer contre lui ? Pour lui, je pense que ça, c'est finalement assez anecdotique, en fait.
Alors, est-ce que la justice va faire tomber Donald Trump ou pas avant l'élection présidentielle américaine ? Est-ce qu'elle peut entraver sa marche dans la Maison Blanche ? Ou au contraire, peut-être d'ailleurs l'aider, le servir en quelque sorte ? Ça, on le verra bien. Mais est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire tomber Donald Trump ? Qu'est-ce qui pourrait encore faire tomber Donald Trump ? Anna, une chanteuse peut-être ?
Bah oui, excellente question, Renaud. Ça peut être Taylor Swift, 34 ans, star mondiale de la pop, 10 albums en 20 ans, 100 millions d'exemplaires vendus. Et rien que sa dernière tournée, c'est 1 milliard de dollars de recettes. Bref, c'est une légende. Et grâce à cet empire, eh bien, Taylor Swift, aujourd'hui, elle pèse aussi politiquement. Et d'ailleurs, en 2023, le Time Magazine l'a désignée personnalité de l'année. Alors forcément, eh bien, son influence est très redoutée par Trump et ses partisans. Et oui, parce que quand Taylor Swift parle, eh bien, il y a quand même 500 millions de followers qui l'écoutent. Un exemple, en septembre 2023, elle lance un appel sur Instagram pour s'inscrire sur les listes électorales. Et en une seule journée, eh bien, c'est 35 000 nouveaux inscrits. Elle sait donc très bien mobiliser sa communauté à des moments clés, et notamment les jeunes de moins de 30 ans. Elle défend aussi ouvertement le droit des femmes et la communauté LGBT. Mais surtout, ce qui inquiète les Trumpistes, c'est de savoir pour qui elle va appeler à voter, car en 2020, elle avait donné son vote à Joe Biden. Et c'est ce qu'elle pourrait faire de nouveau, même si pour le moment, elle n'a toujours pas prononcé son vœu à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il y a un sondage qui a été révélé par Newsweek à la fin du mois de janvier et qui montre qu'un Américain sur 5 va suivre les conseils de Taylor Swift pour l'élection présidentielle. Anne Desine, est-ce que vraiment elle a les moyens de faire tomber Trump ?
Alors, le faire tomber, non, mais c'est vrai qu'elle jouit d'une influence considérable. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, vous savez comment les nouvelles se répandent. Ensuite, il y a les bulles, les likes, les transferts, etc. Il faut aussi se rendre compte que l'Amérique est un pays de gens qui sont quand même dans l'ensemble très crédules, qui croient au diable. Il y a 30% de la population qui croit au diable. Je ne parle pas de l'enfer, au diable. Ils croient aussi aux soucoupes volantes. Ils ont une vision très manichéenne du monde, le bien, le mal, etc. Donc, si Taylor Swift fait juste un petit tweet en disant que Biden, malgré son âge, ça représente le bien, ça ne sera pas anodin.
Si je peux me permettre, on parle de déclin de la démocratie américaine. Si l'élection américaine est déterminée par Taylor Swift, On est quand même tombé bien bas. Quand même.
Et en même temps, Gérald Olivier, on se rappelle qu'en 2016, pas mal de personnalités du show business avaient soutenu Hillary Clinton et pour autant, elle n'avait pas remporté l'élection.
Oui, non, mais il n'y a absolument rien de surprenant, ni à la mise en avant de Taylor Swift, ni à ce qu'elle se déclare elle-même. Maintenant, vous avez dit un Américain sur cinq est prêt à suivre. Il en reste 4 sur 5 qui, eux, ne sont pas forcément prêts à la suivre. Donc, c'est toujours un petit peu rassurant.
Et il y a peut-être un autre sondage, c'est que... Alors, on sait ce que vaut les sondages, mais...
Les sondages se resserrent en ce moment.
Oui, et si Trump était condamné, même dans l'affaire de New York, qui, à part sur le plan symbolique, est sans doute la moins importante, il y a 25% des républicains qui, là, ne voteraient pas pour lui. Alors, ce n'est pas nécessairement significatif, parce qu'on ne sait pas qui sont ces 25%. Mmh. Ce sont peut-être déjà les 25% qui ont voté plutôt pour Nikki Haley et qui sont déjà anti-Trump. Mais quand même, c'est assez significatif.
Pierre Bourgois, l'écart est serré dans les sondages. Est-ce que ça veut dire que l'élection sera forcément serrée? Et d'autre part, il y a un troisième larron, si j'ose dire, qui apparaît peu à peu, un candidat indépendant, Robert Kennedy Jr., ancien démocrate, mais qui puise aussi chez les Républicains. S'il est donné autour de entre 7 et 10% dans les sondages aujourd'hui?
Bon, Robert Kennedy, c'est plus une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir peut-être qu'il va piquer quelques voix à droite à gauche.
À droite à gauche, enfin, en l'occurrence, à Trump ou à Biden?
Un peu aux deux, en fait.
Il peut jouer un rôle quand même dans certains États, justement, où ça va être très serré.
Les États clés. Mais en fait, pour répondre à votre première question, oui, l'élection sera serrée jusqu'au bout. On voit qu'en effet, pour l'instant, il y a un rapprochement. C'est-à-dire qu'il semble que Biden est en train de rattraper petit à petit le petit retard qu'il avait sur les deux derniers mois, sur les deux, trois derniers mois. Mais en fait, on peut évidemment rien présumer. Il y a encore de longs mois. Il peut se passer beaucoup de choses, surtout aux États-Unis, surtout dans ce que vous disiez, vous parliez de la politique un peu spectacle. On n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements.
La fameuse surprise d'octobre.
Et qu'est-ce qui peut être, alors, d'après vous, le plus déterminant avant le 5 novembre
prochain? Déjà, l'un des deux peut tomber ou être malade. Ils ne sont quand même pas très jeunes, l'un et l'autre. Et puis la situation, nous parlions de la situation internationale, c'est très très compliqué pour Biden.
Ça peut jouer dans l'élection.
Parce que Israël, il faut bien voir qu'Israël est soutenu non pas par les juifs, mais par les évangéliques. Les évangéliques sont les troupes de Trump. Et donc là, dans la négociation, quand Biden essaie de faire adopter à la Chambre des représentants le fameux paquet avec de l'aide pour l'Ukraine, Taïwan et Israël, les républicains disent « on va voter tout de suite l'aide pour Israël ». Tout ça, ça divise le camp Biden et ce n'est pas très très bon pour Biden.
Gérald Olivier, justement, pour conclure, qu'est-ce qui va, selon vous, être déterminant et qui va faire justement le résultat de cette élection? La situation économique, l'âge du capitaine ou l'état de santé peut-être du sortant, les sujets, les dossiers internationaux et notamment la guerre au Proche-Orient?
Alors, les démocrates seraient ravis de mettre Donald Trump, criminel condamné, avant son nom à chaque fois qu'il parle de lui avant l'élection. C'est le but de base du procès.
Et ça peut jouer. Ça aura une influence.
Condamné,
c'est mauvais.
Pour moi, ça aura une influence mineure. Mais ça aura une influence, notamment sur le vote non pas tant des républicains que des indépendants. Mais la situation internationale va jouer, ça c'est indéniable. L'inflation, l'immigration clandestine. Oui, l'inflation, c'est l'économie.
Oui, c'est pour ça.
L'immigration clandestine. Et la criminalité.
Et la
Parce qu'à la fin, les Américains votent toujours avec leur portefeuille. Et pour moi, c'est ce qui aura le plus d'incidence sur le vote.
Merci à tous les trois. Ce sera en tout cas le mot de la fin pour ce soir. Mais rassurez-vous, on aura l'occasion d'en reparler d'ici le mois de novembre. Vous pouvez compter sur nous. Merci en tout cas d'être venu débattre sur notre plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.